Nous remercions l'Éternel qui nous a rassemblés encore aujourd'hui et qui nous a commencé l'année avec nous. Nous remercions le Dieu des cieux qui nous a conduits depuis 2025 et qui est resté avec nous, qui a commencé 2026 avec nous. Je remercie Dieu de ce que, en priant, le message de ce matin va nous permettre de répondre à une question qui va nous permettre de comprendre une question qui est un problème central dans la vie du chrétien. Et un problème que nous voyons comme n'étant pas important, mais qui est central. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit que le disciple ne peut pas être plus grand que le maître. Et cela veut dire que nous ne pourrons pas croire ce que nous voulons croire et qui n'est pas du tout la volonté de Dieu. Et nous ne pourrons pas vivre avec des idées qui ne correspondent pas aux idées de Christ, de Jésus-Christ. Ne pourrons pas faire ce qui n'est pas recommandé par Jésus-Christ et ne pourrons pas continuer de vivre comme si le christianisme est une association dans laquelle chacun apporte ses idées. C'est-à-dire, moi aussi, je pense que non. Le Seigneur Jésus-Christ, en ce qui concerne l'essentiel de notre relation avec lui et avec Dieu, a donné des consignes très claires. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la réalité de la prière. La réalité de la prière. En d'autres termes, si on veut parler de prière, on ne parle de prière que dans les religions. Dans les religions, le christianisme est une religion. Et donc, beaucoup de gens prient. Le charlatan prie. Les notables prient. Il y a des gens dans les villages qui sont désignés pour prier. Chacun s'adresse à quelque chose qu'il appelle à la fin Dieu. Et les chrétiens prient. Les judaïstes prie, les musulmans prient. Et nous aussi ici, nous prions. Et j'ai constaté que tout le monde pense, non pas tout le monde, beaucoup de gens pensent que la prière, c'est aller s'agenouiller quelque part et dire à Dieu ce qu'on veut. Et ainsi, le monde, cet chrétien surtout, qui enterre avec le cercueil et autres, s'est transformé en une sorte de prière commerciale où vous voyez dans la même église, celui qui voit la nourriture pour que les gens puissent manger, celui qui vend les médicaments pour que les gens puissent être en bonne santé, le médecin qui a créé sa clinique pour que les gens tombent malades et viennent, qui prie, le pharmacien qui attend que les malades viennent acheter les médicaments, le morguier, il y a maintenant plusieurs morgues d'ailleurs, qui attend que les gens meurent dans la même église. Les gens meurent pour qu'on vienne louer les casiers pour avoir de l'argent et pour que ces enfants puissent aller à l'école. Tous sont dans la même église. Qui a donc raison? Où se trouve donc la réalité de la prière? Et puisque certains prient pour qu'on achète, pour que leur, d'abord au champ, leur produit donne des fruits, ils prient pour que ça s'achète, les acheteurs prient pour que ça se vende, et les autres prient pour pouvoir avoir l'argent pour aller acheter, manger, et finalement, et ceux qui gèrent les morts aussi prient pour que il y ait des morts et ils sont tous devant le même pasteur, dans la même église, portant le même nom. Et donc, quand il faut faire la fête des moissons, il y a une danse merveilleuse. Mais on ne comprend pas finalement pourquoi tout le monde danse. Heureusement, avant les fêtes, il y a eu beaucoup d'accidents et on a enterré les gens. Et donc, le morguier est aussi content, celui qui a fait la tombe content, etc., etc. Tout le monde content. Ils sont contents, ils dansent. Et ils disent, moi, comment et en même temps, celui qui a vendu la nourriture aussi danse, celui qui a pu acheter aussi danse, celui qui est allé au champ aussi danse. Donc, et moi, on garde tout le monde avec des résultats vraiment contraires. Chacun est heureux et on est souvent heureux pour le malheur de l'autre. Cette question est bien importante au début de cette année 2026, où nous avons reçu que et Dieu a couronné l'année de ses biens et ses pas versent l'abondance. Aucun de ces métiers que j'ai cités n'est interdit par Dieu. Dieu n'a jamais dit de ne pas avoir de gens qui creusent des tombes. Jésus-Christ lui-même, il est passé par la tombe. Dieu n'a jamais dit de ne pas faire les funérailles de quelqu'un. J'ai oublié cette partie même, funérailles, où les gens viennent pour quelques minutes pour faire comme si Et si tu regardes bien la foule, certains sont derrière en train de causer et n'attendre que la fin du culte pour sortir. Et on attend le grand moment pour aller manger, nous allons manger. Et on cause, chacun parle de tout et de rien. On a déjà oublié ce pourquoi on est venu. On a oublié déjà le cadavre, celui qui est décédé. Cette image que je viens de vous présenter de la vie est une réalité. Vous savez, la question se pose au début de cette année pour que nous ne passions pas à côté de la bénédiction de Dieu. Et il est écrit dans Jean 9, verset 31. Jean 9, verset 31, il est écrit: Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Cette réponse est venue après une discussion entre, si je peux l'appeler ainsi, entre l'Église, c'est-à-dire le celui de la synagogue, et l'aveugle né. Entre l'Église, c'est-à-dire ceux de la synagogue, si je peux appeler la synagogue l'Église, entre les adorateurs de Dieu qui sont dans le temple et l'aveugle né qui a été guéri. Et il demandait, l'aveugle guéri, l'aveugle né, nous avons déjà prêché là-dessus, ça fait quelques semaines. On dit que Jésus-Christ a pris de sa salive et a fait un peu de boue, qu'il a mis sur son nez, sur ses yeux, et puis lui a demandé d'aller se laver. Et vers la fin des discussions, les gens lui demandèrent, Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Et ceux qui sont dans la synagogue, cet aveugle né, l'une, je ne suis pas sûr qu'il aille à la synagogue parce que, étant infirme, il leur demande s'ils veulent devenir aussi ses disciples. Et ceux qui sont dans la synagogue l'injurièrent et dirent, C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. N'oubliez pas cette phrase. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il vient. Cet homme, l'aveugle né, leur répondit, Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Et cependant, il m'a ouvert les yeux, et vous ne savez pas d'où il est. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore, et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Mes amis, les disciples de Jésus, je vous ai dit que cette affaire était tellement compliquée que les disciples de Jésus eux-mêmes ont demandé qui a péché. Est-ce les parents? Est-ce le jeune même qui est avec le nez? On se demande déjà. Et ça a suscité des discussions. Et il a été dit, Jésus-Christ dit que c'est pour la gloire de Dieu que celui-là est né aveugle. C'est bien à entendre quand on dit c'est pour la gloire de Dieu qu'il est né, qu'on est assis, on entend, ou bien on lit. C'est bien. C'est écrit, on a entendu ça au point où, bon, on a assimilé ça, c'est pour la gloire de Dieu, oui. Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un peut accepter dans sa famille qu'un enfant naisse. Supposons qu'on a même reçu une révélation que l'enfant sera né aveugle. Que tu auras un enfant né aveugle et que c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous pensez que celui qui... Vous pensez que un pasteur, je pense, un prêtre, ceux qui sont à l'église, et qu'une révélation comme celle-là arrive, vont accepter que celui qui a reçu cette révélation et que malheureusement l'enfant naît aveugle. Est-ce que vous pensez qu'on va dire que Dieu a parlé à celui-là ou bien on va dire que c'est un sorcier? Que c'est lui-même qui a transformé l'enfant en aveugle? Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut accepter ça en tant que chrétien? Est-ce que vous pensez que les parents peuvent aimer celui qui a reçu cette révélation? Parce que leur enfant sera aveugle, on leur a dit, et l'enfant est né aveugle. Est-ce que vous pensez que les parents resteront dans cette église parce que le pasteur continue de laisser ce monsieur ou cette femme qui a reçu une révélation qu'eux, ils vont faire un enfant aveugle pour la gloire de Dieu? Est-ce que vous pensez que les parents vont prier pour que cette révélation qui a été reçue, que l'enfant sera né aveugle? Et est-ce que vous pensez que les parents vont prier pour que leur enfant naisse aveugle pour la gloire de Dieu? Est-ce que vous avez un oui à dire à toutes les questions que j'ai demandées? Quelqu'un peut accepter ça? Est-ce que les parents ne retourneraient pas prier pour dire non, on ne peut pas être dans une église et que, même pour la disparition de toute l'église, que si c'est ça, ils ont déjà quitté l'église en appelant, en qualifiant cette église d'église du diable. Que Dieu ne peut jamais faire ça. La réalité de la prière. En lisant cette partie de la parole de Dieu, au fait, il est question d'un aveugle né qui vous dit que c'est... Il y a déjà les disciples qui ont demandé si c'est... Qui a péché? Et il dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Il vient d'avoir reçu une guérison. Ce qui veut dire que celui-là qui ne voit pas, qui ne va pas à la synagogue, mais qui a quelque chose qu'il dit à Dieu, sa réponse ici, il demande à ceux qui ont les yeux ouverts, qui vont à la synagogue, comment eux, ils n'ont pas pu reconnaître ce Jésus et qu'il lui demande à lui celui qu'il est. Et les gens disent, nous sommes de Moïse, nous sommes de la loi. C'est toi qui es son disciple, nous, on ne le connaît pas. Nous ne voulons pas suivre la volonté de Dieu. Nous nous demandons à Dieu Ce qui est notre volonté, comment nous nous voyons les choses, c'est comme ça que nous nous adressons à notre Dieu. Je veux donc vous dire, chers frères et sœurs, que cet aveugle priait. Cet aveugle priait parce que lui ne connaît pas la lumière pour savoir même. C'est-à-dire, il n'a pas connu la vie pour avoir péché, pour dire qu'il demande le pardon des péchés. Nous sommes tous des aveugles nés. Tous ceux qui ne font pas encore la volonté de Dieu sont des aveugles nés. Et donc, comment nous gérons notre manque de vision. Comment nous gérons notre vie avec Dieu? Quand nous avons un problème, est-ce que nous demandons à Dieu si c'est cela, sa volonté? Et surtout, quand ici, il s'adresse à des gens qui ont passé des dizaines d'années, des gens qui ont 50 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans dans la synagogue. Quand nous sommes dans une situation, et c'est pourquoi je vous ai demandé si quelqu'un a une révélation, a dit que l'enfant sera né aveugle. Est-ce que nous sommes capables de l'accepter? Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Matthieu 6. Matthieu 6 dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment prier? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous répétons ça. Il y a des églises dans lesquelles on ne peut pas finir. L'Église protestante, par exemple, l'Église catholique, par exemple, dans lesquelles on ne peut pas finir la prière sans cette prière de Jésus-Christ. On ne peut pas finir le culte. Quand on se réunit, au moins avant de finir, il faut réciter ça. La réalité de la prière. Dans Matthieu 7, Matthieu 6, c'était Matthieu 6, verset 10. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 12, verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Ces trois versets, ce sont des versets, c'est Jésus-Christ qui parle. Le premier verset, c'est quelqu'un qui a été sauvé par Jésus-Christ. Et je voudrais, pour ce début, d'année, je voudrais vous recommander de changer de façon de prier. Je reconnais que les problèmes de la vie sont tels que nous sommes pressés par les problèmes envahis. Nous sommes envahis par les problèmes de la vie. Nous sommes envahis par les problèmes de la vie. Ce qui fait que nous sommes pressés d'avoir des solutions et nous allons, quand nous pouvons, nous ne prions même pas tout le temps, quand nous le pouvons, nous allons à genoux et nous disons à Dieu, sans le savoir, de nous faire sa notre volonté, comment nous voyons la chose. Mon expérience, c'est que ce n'est pas parce que tu viens devant Dieu pour lui dire fais-moi ceci, fais-moi ceci, qu'il va t'exaucer. Mon expérience, c'est que tu dois connaître. Il faut que tu dises à Dieu ce que il faut connaître ce que Dieu demande et que tu lui dises. N'oublie pas, même si c'est une chose que Dieu te demande, quand tu fais ça, tu l'as honoré et tu as fait sa volonté. Alors, il t'exauce, puisqu'il connaît tes problèmes. Or, nous passons du temps. J'ai appris dans mes relations avec Dieu que tant que je resterai sur ma volonté pour prier, demander à Dieu, fais-moi ceci, je souhaiterais que tu me fasses ceci. Oh Seigneur, Seigneur, comme c'est, je voulais lui tout de suite, ce n'est pas ce qui, ce n'est pas ce qu'ils disent, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, en criant que Dieu va nous écouter. Et je vous ai dit que si nous le forçons, s'il l'écoute, ça devient un péché qui amène à la mort spirituelle, à la mort charnelle. La prière, comme c'est dit dans Jean 4, verset 34, notre nourriture, ce qui doit nous nourrir. Jésus-Christ dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Notre nourriture est de faire la volonté de Dieu. Donc, je voudrais que ce soit clair pour chacun au début de cette année, que nous pourrons, Dieu a tellement du temps que tu peux commencer à demander quelque chose à Dieu depuis 1960 ou depuis 1980, 1990, 2000. 2020, ce n'est pas ça en faisant croire que toi tu fais la volonté de Dieu, tu accomplis la loi, tu fais je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça que Dieu, ça ne t'amènera pas à une solution. Ça peut même aggraver ta situation. Si ce n'était pas le cas, Jésus-Christ ne serait pas tué. La volonté de Dieu, c'est que Jésus-Christ soit sacrifié. Mais qui pourrait dire à une femme que son enfant sera sacrifié? C'est-à-dire, supposons qu'on a reçu une révélation ici. Quelqu'un ici est la mère de Jésus-Christ ou le père de Jésus-Christ. On leur dit que pour les autres, on va le crucifier. Il va mourir. Mais celui qui a reçu cette révélation-là, on l'appellera sorcier. Si c'est fait dans une église publiquement, on quittera l'église. Si l'église accepte ça, les gens vont quitter cette église. L'église sera fermée. Si c'est le pasteur qui a reçu ça, on dira que c'est un pécheur. Un criminel, que Dieu soit avec nous. Je finis. Je crois que vous avez compris. Nous sommes au début de l'année. Nous pourrons demander des choses, continuer de demander des choses, continuer de croire que nous souffrons, continuer de croire que Dieu ne nous écoute pas. C'est tout simplement parce que nous n'honorons pas Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu dit, nous ne faisons pas ça et nous ne faisons pas sa volonté. Notre prière est dirigée contre la volonté de Dieu. Et nous prions pour que Dieu fasse. Les chrétiens considèrent que la prière, c'est d'amener devant Dieu ce qu'ils veulent, ce qui leur plaît, ce qu'ils veulent que Dieu leur fasse. Ce n'est pas la réalité de la prière. La prière, c'est d'amener devant Dieu ce qu'il t'a dit à travers sa parole qui te fait croire, qui te donne la foi. Que chacun d'entre nous, alors, en s'adressant à Dieu, ne croit pas que c'est pas... Que chacun sache que ce n'est pas la quantité des paroles et des prières que nous serons agréables à Dieu. Ce n'est pas notre capacité d'honorer Dieu en faisant sa volonté et en faisant ses œuvres. Et que si nous continuons de suivre, d'être les disciples de Moïse, comme les autres le disent, nous n'aurons jamais connu Dieu dans sa bonté. Nous n'aurons jamais connu Dieu dans son couronnement de nos jours, de nos années, dans son abondance qui vient de ses pas. Que Dieu fasse en sorte que nos prières maintenant soient de faire la volonté de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il faut aller prier pour dire Dieu, donne-moi de faire ta volonté. Ça commence par ce que Dieu t'a dit et que tu as commencé par faire. Et c'est comme ça que Dieu te parle d'autres situations, petit à petit. Quand tu es là-dedans, tu grandis comme ça. Parce que ta relation avec Dieu, tu parles avec Dieu et lui te dit, là où toi, ça dit, tu n'as pas besoin d'être quelque part, fais une prière spéciale, dangerous prayer pour aller quelque part, pour que... Non, tu seras là, comme c'est dit dans Isaïe, tu seras là quand... Dieu fera de grandes choses pour toi, la joie viendra te remplir parce que Dieu a été bon. Que Dieu vous bénisse.